Des journalistes politiques, chercheurs, dirigeants d'organisations fichés par un cabinet de lobbying travaillant pour le géant américain Monsanto, producteur du fameux glyphosate. L'affaire a été révélée en fin de semaine par Le Monde et France 2. Près de 200 personnes, dont 6 journalistes de Radio France, ont été répertoriées selon leur degré d'hostilité supposée à l'herbicide classé cancérigène probable par l'OMS. Plusieurs médias ont porté plainte. Jusqu'où est-il possible de collecter des informations sur les individus? Bonjour Nathalie Metalinos. Vous êtes avocate, vous intervenez souvent dans le domaine du droit de la protection des données personnelles. Les entreprises ont-elles le droit de détenir des fichiers sur les individus qui s'exprimeraient ou penseraient même des choses, c'est possible, sur les produits que ces entreprises vendent?
Bonjour. Donc oui, effectivement, la réglementation n'interdit pas le fichage. Hein. Je dirais que la réglementation l'organise, mais tout en fixant un certain nombre de limites. Là, dans cette affaire du fichage, donc des opinions sur le glyphosate, il y a plusieurs arguments qui ont avancé pour estimer que il y avait un problème avec ce fichier. Un des premiers arguments, c'est de dire on fiche les gens à cause de leurs opinions politiques. Mm-hmm. Effectivement, ça c'est
ou religieuse
ou philosophique. Donc ça c'est un interdit. Maintenant, qui est posé par la loi.
Si je dis, par exemple, que le glyphosate est une cochonnerie, est-ce que ça, c'est une opinion religieuse ?
Voilà, donc, a priori, non. Donc, on n'est pas dans le champ de l'interdit de la législation quand on dit qu'un tel est contre le glyphosate ou un tel est contre Monsanto. Ça ne relève pas de ces données sensibles particulièrement protégées par la législation. Alors, après, pour autant, est-ce qu'on peut tout faire ? Non. Et là encore, il y a des nuances.
Si on pose la question comme ça, tout faire, généralement, on sait que c'est interdit.
Voilà. Mais cela étant, là, on voit que ce fichier est allé très très loin, en fait, et mélange, il y a un mélange de genres, parce que autant rapporter des propos publics tenus par un homme politique, par un blogueur qui dit je suis pour Monsanto ou pour le glyphosate ou contre, etc., ben, ça ne pose pas la même difficulté que déduire d'un écrit de l'appartenance à telle organisation que telle personne serait sans doute pas favorable ou très favorable.
Et de ce que ça, j'ai... c'est interdit ?
C'est pas que c'est interdit, mais la question de la possibilité, en tout cas, de noter cet élément va se poser avec plus de contrôle, en tout cas, sur ce sujet-là.
Mais alors, maître, si, par exemple, on fait un fichier avec des idées, des opinions qu'une personne est censée avoir, est-ce que ça n'est pas une atteinte à sa vie privée ?
Alors, si. Donc là encore, on va revenir sur comment est-ce qu'on a eu connaissance de ces opinions-là. Et c'est vrai que au-delà des personnalités publiques qui vont exprimer publiquement une opinion, les lobbyistes, hein, parce que ce type de fichier me semble, dans son principe, en tout cas assez courant, ont des relations avec les personnalités, vont faire des comptes rendus et vont déduire l'aspect positif ou pas, ou vont déduire un certain nombre de choses. Ici, je pense que ce qui pose problème dans ce fichier-là, c'est la façon dont on est arrivé aux conclusions que la personne était plus ou moins favorable aux thèses de Monsanto ou au produit le glyphosate, et également sur ce qu'on veut en faire, puisqu'un des principes de la législation, c'est également la finalité. Hein, pour quelles raisons est-ce qu'on collecte les données? Cette finalité doit être légitime, licite, et encore faut-il avoir une base légale pour collecter les données.
Mais alors, par exemple, faire changer quelqu'un d'avis, je veux dire par des moyens usuels tels que l'argumentation, est-ce que ça, c'est illégal?
Non, alors ça, on va pouvoir se dire qu'on a un intérêt légitime à constituer, par exemple, un fichier pour préparer une réunion, pour préparer l'approche d'un certain nombre de personnes et voir ce que cette personne a pu penser par le passé, par exemple sur le glyphosate ou sur les activités de Monsanto. Donc là-dessus, on serait sur quelque chose de possible en tout cas. Mais la législation vous dit transparence, c'est-à-dire qu'il faut informer ces personnes préalablement à l'entrée en contact avec elles qu'on a collecté sur leur site ou ailleurs un certain nombre d'informations qu'on tient un fichier.
A priori, c'est dire « souriez, vous êtes fiché ».
C'est leur dire, en tout cas en cas de collecte indirecte, c'est leur dire, cher monsieur, nous tenons des fichiers sur les contacts que l'on a et sur les relations institutionnelles que nous avons afin de gérer nos relations institutionnelles. Donc ça peut se faire sur le site internet, ça peut se faire sur des petites notes au pied des emails, enfin il y a des multiples façons d'informer les personnes. A priori, ici, on reproche à Monsanto de ne pas l'avoir fait. Hein, donc ça, c'est un premier élément qui peut être critiqué dans son approche. Et sans doute, le deuxième élément, ce sont les segmentations, c'est-à-dire les catégorisations. Donc la façon dont on a classé les individus.
Vous voulez dire, par exemple, les mentions telles que « partie prenante à éduquer », ce qui est sympathique, ou alors « à surveiller », là, ça peut carrément être perçu comme menaçant, maître.
Voilà, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on demande, en fait, lorsqu'on classe les gens, puisque le profilage n'est pas interdit par la réglementation, il est organisé, c'est d'utiliser des termes objectifs, étayés hein, par un certain nombre de faits, qui ne vont pas porter atteinte aux intérêts de l'intéressé, qui vont pas être caricaturaux, et qui, si jamais ils venaient à être connus de tiers, ne porteraient pas atteinte à l'honneur, la crédibilité ou autre de la personne. Et là, on se rend compte dans beaucoup de réactions que les personnes se sentent atteintes, en fait, hein, dans ce qu'ils pensent. Et ça montre que la façon de segmenter n'était pas la bonne, en tout cas.
Mais il y avait aussi des mentions qui étaient plus compliquées, vraiment, sur la vie privée des individus, Nathalie Metalinos.
Oui, alors j'ai lu qu'a priori, certaines rubriques du fichier envisageaient de collecter les centres d'intérêt, les loisirs des personnes. Donc ça,
alors
pour
ça,
le
vous
coup...
avez le droit de le faire ?
Non, alors par rapport à la finalité du fichier, il est clair que ce serait excessif, en tout cas, par rapport à l'objectif qui est de gérer ces relations institutionnelles. Et donc là, on va trop sur la vie privée.
Excessif, ça veut dire que là, vous entrez dans un domaine où finalement le fichier devient en quelque sorte menaçant, inquisitorial ?
Oui, ou excessif, la notion d'excessif, c'est par rapport à la finalité. C'est-à-dire ma finalité qui est de gérer mes relations institutionnelles, qui est de contacter les gens qui pourraient être favorables ou défavorables à ma thèse. Quelles données ai-je droit de collecter pour cette fin-là ? On considère que les données sur la vie privée vont être trop éloignées de cette finalité et pour justifier cette collecte-là. Donc là, il n'y aura pas d'argument pour permettre la collecte, même avec le consentement des individus. Si la donnée que vous collectez n'est pas directement liée, ce n'est pas possible.
Dernière chose, maître, il y a des professions où on a le droit de faire des fichiers.
Oui, vous exercez ce type de profession, hein, puisque les journalistes, effectivement, ont le droit de ficher les individus sans les informer. Ils ont le droit de conserver ça sans limitation de durée, et y compris les opinions politiques. Mais ce qui n'est pas du tout... c'est la dérogation pour préserver la liberté de la presse par rapport à l'autre liberté que constitue la protection des données personnelles.
Et donc, il aurait suffi de considérer que cela était en accord avec la profession des individus pour qu'un fichier devienne légal. Il l'est dans le cas donc du journalisme, pas uniquement des journalistes, j'imagine.
Alors, c'est surtout les journalistes qui ont une très très grande... Oui, vous bénéficiez d'une très très grande dérogation à tous les principes de la réglementation depuis le début. Mais effectivement, là, dans le cas du lobbying, il y a un manque d'organisation de cette activité qui aujourd'hui est légale en France, mais on ne vous dit pas comment il faut faire. Or, on se doute bien qu'il y a des fichiers. Hein. Donc, il y a certainement des choses à organiser.
Merci beaucoup, Nathalie Metalinos. Je rappelle que vous êtes avocate, notamment dans le domaine du droit de la protection des données personnelles, et vous êtes chargée d'enseignement à l'Université Paris. René Descartes.